Bonjour, bienvenue à chacun et chacune pour ce nouveau culte estival. Nous sommes heureux de vivre avec nos amis de la paroisse protestante aujourd'hui. C'est Michel Félix de cette paroisse même qui apportera le message. Pour commencer, j'aimerais prier. Seigneur, j'aimerais te remercier déjà pour le privilège qu'on a de pouvoir passer ce moment entre frères et sœurs en Christ aujourd'hui. Je te prie pour les intervenants et intervenantes pendant le culte, accompagnés dans leurs discours, que tu puisses les animer de ton esprit afin que tu te révèles à nous. Je te prie pour Michel en particulier, pour son message qu'il apportera à la suite, et pour toutes les autres personnes. Au nom de Jésus, amen. Si je vous demande qui est Martin Luther King, la plupart d'entre vous me répondront qu'il s'agit d'un pasteur qui s'est battu pour les droits des personnes noires aux États-Unis et dans le monde. Certains et certaines d'entre vous ajouteront peut-être qu'il s'agit aussi d'un orateur, d'un homme maîtrisant la rhétorique à la perfection. Et ce faisant, vous donneriez comme exemple son fameux discours « I have a dream »,« J'ai un rêve », prononcé au cœur des États-Unis devant le Lincoln Memorial le 28 août 1963. On attribue, bien qu'elle soit plus ancienne que Martin Luther King, une autre expression qui va ainsi « La liberté des uns » s'arrête là où commencent les autres. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants pour réfléchir à la portée de cette phrase. Si on cherche cette phrase sur Internet, qu'on clique sur le premier lien et qu'on va en bas de l'article, on tombe sur une critique d'un philosophe français, Christian Godin, qui accuse cette phrase de simplifier la liberté à une dynamique de concurrence. En effet, si j'agis selon cette maxime, si je donne un exemple par exemple, j'ai le droit de mettre de la musique chez moi, mais pas de la musique trop forte, par peur de déranger mes voisins et voisines, qui viennent de réussir à mettre au lit, par exemple, la petite, qui s'égosillait dans la cage d'escalier il y a 10 minutes encore. J'agis donc par peur, plutôt que par amour. Et c'est là que doit aller, je pense, notre réflexion. Il est important d'inscrire la liberté dans une dynamique de solidarité les uns envers les autres, à l'inverse de ce que cette maxime dit. Y réfléchir, donc, contredire cette maxime, revient à arrêter d'agir par peur, à sortir de l'individualisme occidental, où nous n'agissons par peur de déranger nos prochains et par peur de se déranger soi. Sortir de la dynamique promulguée par cette maxime et revenir au message biblique nous invite à changer de point de vue sur la liberté, d'arrêter de la considérer comme ce concept abstrait et limitable, pour à la place revenir à des comportements plus concrets, où nous agissons par solidarité, par amour, plutôt que contrainte et par peur. Et je vous invite, pendant ce culte, pendant que les musiciens et musiciennes peuvent gentiment se mettre en place, à réfléchir un peu à cette maxime pendant tout ce que Michel va pouvoir nous dire et pendant ce temps de louange.
Donc nous allons prendre un moment maintenant de louange tous ensemble. Nous allons chanter tous ensemble. Pourquoi chanter? Pourquoi ici et maintenant? Alors qu'on ne le fait pas forcément dans le tram ou même chez soi. Mais en lisant les psaumes, on découvre combien le Seigneur aime que ses enfants le célèbrent, le louent et le reconnaissent pour Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons le chanter. Dans le psaume 147, par exemple, il est dit: l'Éternel prend plaisir en ceux qui le révèrent, en ceux qui comptent sur son amour. Je vous lis une partie de ce psaume 147. Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable de le louer ainsi qu'il en est digne. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et qu'il abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu au son de la cithare. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux troupeaux de bétail, aux petits du corbeau, que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux. La force du guerrier n'est pas ce qui lui fait plaisir. Ce qui fait plaisir à l'Éternel, l'Éternel prend plaisir en ceux qui le révèrent, en ceux qui comptent sur son amour. Alors voilà, comptons sur l'amour de Dieu. Il est présent avec nous. Et on va chanter un chant, toutes les générations entonneront un cantique. Tous les anges entonneront un cantique. Toutes les confessions chrétiennes du monde entonneront ce cantique. Ce matin, dans les églises du monde entier. Tu es saint, Seigneur.
Thank you.
ce matin. Amen, vous pouvez vous asseoir.
Avant qu'on passe au message, les enfants vont pouvoir rejoindre leur groupe. Et juste avant, je vais prier pour leur moment à eux. Seigneur, je te remercie d'une part pour Mélanie qui accompagne les enfants dans ce moment privilégié qu'elles vont pouvoir avoir avec toi, Seigneur. Je te prie qu'ils puissent te découvrir d'autant plus, que ça puisse être un moment fructueux pour eux, rempli aussi pour ces enfants de ton esprit. Au nom de Jésus, amen. Je lis dans 1 Corinthiens 11.
Pas
1 Corinthiens 11, ça c'est le prochain texte. Ouais. Luc 4, 1 à 13. Si t'arrives à l'afficher, merci. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui répondit, L'Écriture déclare, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rendis culte qu'à lui seul. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion.
Bonjour. Je suis heureux de vous rejoindre ici dans cette chapelle. J'ai intitulé ma méditation « Aux sources de la liberté ». En fait, je l'ai tiré du titre d'un livre du pasteur Roland Dupuri, dont je me suis pas mal inspiré. Vous aurez peut-être remarqué que dans le texte qu'on a été lu et qui a été projeté, j'ai interverti une partie des versets. C'est parce que le texte de Luc ne présente pas un ordre totalement identique et j'ai pris l'ordre du livre de Matthieu. Parler de liberté. En lisant le texte de la tentation de Jésus au désert, cela peut paraître étrange. Il n'est pas question de liberté dans ce texte. Aucun mot de cette racine n'y apparaît. De prime abord, effectivement, il est question ici de tentation ou de mise à l'épreuve. En grec, d'ailleurs, c'est le même mot. Et pourtant, d'ailleurs, pour moi, le texte épreuve est plus approprié que le mot « tentation ». Lorsque nous étions à l'école, nous redoutions avoir des épreuves, n'est-ce pas ? Une épreuve. Pourquoi est-ce que le professeur nous les faisait subir ? En fait, il s'agissait surtout de vérifier, de contrôler l'acquisition des données, des notions qui nous étaient enseignées. Et on parle aussi d'éprouver la solidité d'une corde, par exemple, et bien d'autres choses. Et en fait, je pense que ici, c'est exactement ce qui se passe. L'adversaire, le diable, l'ennemi, peu importe comment on l'appelle, veut tester la réalité de ce qu'affirme Jésus. Parce que Jésus, juste avant d'être envoyé dans le désert, a été baptisé. Et là, une voix est venue et lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Cette voix a affirmé qu'il est fils de Dieu. Et si Jésus est fils de Dieu, il y a des attributs qui l'accompagnent. Aussi par trois questions, par trois épreuves auxquelles Jésus va être soumis, l'adversaire veut prouver que Jésus n'est pas fils de Dieu. Ces trois questions sont donc des réalités plus qu'importantes, totalement vitales pour Jésus et pour nous également, parce qu'elles sont un sésame pour ouvrir la porte qui mène à la liberté. Ainsi, Jésus est soumis à ces épreuves. Alors, comment va-t-il y répondre? Comment va-t-il déjouer les traquenards que l'adversaire, le Satan, le diable, a posés devant lui? Nous aussi, nous sommes souvent confrontés, soumis à ces mêmes épreuves. Quelles sont dès lors nos réponses? Quand on aborde ce texte de la tentation, on se pose la question, mais Jésus était fils de Dieu, est-ce qu'il pouvait vraiment, vraiment y succomber à cette tentation? Est-ce qu'il y avait pour lui une possibilité de ne pas résister? C'est vrai que Jésus est fils de Dieu, mais il est aussi un homme. Et à ce titre, il était faillible. Alors, non, je suis sûr que les dés n'étaient pas pipés. Jésus aurait pu rater l'examen. Ceci était en sorte un préambule et on va essayer d'aborder les trois tentations auxquelles Jésus a été soumis. La première, c'est celle de la faim. Jésus a faim. Allez, transforme cette pierre en pain. Tu pourras manger, tu seras rassasié. Lui dit l'adversaire. La faim, n'est-ce pas aussi un cri d'une grande partie de l'humanité qui n'a pas assez à manger pour vivre? Oui, c'est vraiment un des grands problèmes de notre monde. Comment ne pas nous engager pour travailler afin que chacun puisse manger à sa faim, que chacun puisse être rassasié? Jésus savait bien tout cela. Il comprenait les impératifs des personnes affamées. N'a-t-il pas nourri des milliers de personnes en multipliant les pains? Dieu n'avait-il pas nourri son peuple dans le désert en lui envoyant la manne? Alors qu'est-ce qui est différent ici? En fait, je crois que la véritable question est: quel sauveur l'adversaire voulait-il? quel sauveur voulons-nous ? Voulons-nous un sauveur providence ? Un faiseur de miracles pour répondre à nos besoins et donner à manger à tous les hommes ? Mais alors, tout le monde le suivrait, ce sauveur providentiel. Chaque humain le suivrait bien volontiers. Chacun aurait de quoi manger. Mais alors, serions-nous vraiment libres ? Le refus de Jésus est clair. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et du reste, après la multiplication des pains, quand les gens sont venus à sa suite, il le leur a bien dit. Vous ne venez pas à moi pour entendre ce que j'ai à vous dire. Vous venez vers moi parce que vous avez été rassasiés, parce que je vous ai donné à manger. Mais c'eût été alors un pain d'esclave. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut nous donner. Il veut nous donner un pain d'homme libre. Il nous propose un pain partagé dans le dialogue avec Dieu et les uns avec les autres. Le refus de Jésus à la proposition de l'adversaire brise une chaîne et suscite en nous la dignité. Jésus choisit pour nous la liberté et il nous l'offre. Vient ensuite la deuxième tentation. Et là, il est question de spiritualité et de religion. Étonnant, n'est-ce pas, que Jésus puisse être attaqué sur ce domaine-là ? N'est-il pas le fondateur d'une religion ? Et justement, ce n'est pas le cas, bien que c'est ce que l'adversaire voudrait qu'il fasse. Allez, jette-toi en bas, là. Tout le monde pourra t'adorer. Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu vois bien, même ton Père dit qu'il te portera, qu'il te protégera. Puis là, au vu de tous, dans le temple, tu serais un véritable thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles pour que tout le monde puisse t'adorer et te voir. Tu pourrais ainsi résoudre tous les problèmes de tous les habitants de la terre. Ça serait fantastique. Qui dit mieux ? Seulement alors, il n'y aurait plus aucune possibilité de croire, puisque tout serait évident. Plus aucune possibilité de ne pas être chrétien. Plus aucune possibilité de ne pas être comme tout le monde. Or, et c'est justement la force de la relation que Dieu en Jésus-Christ veut établir avec les humains, cette possibilité nous est donnée de croire librement, sans rien imposer. La contrainte n'existe pas dans la manière de Jésus de concevoir les choses, parce qu'il n'y a pas d'amour dans la contrainte. Et il n'y a pas de foi non plus. C'est un schéma dans lequel une seule possibilité reste, suivre le troupeau comme des bêtes, comme des moutons, sans possibilité de choisir par soi-même. Y a-t-il liberté quand il n'y a pas de choix possible ? Certainement pas. Et c'est pour ça que Jésus répond : tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Parce que, autrement, il s'agit d'un déni de foi et d'amour. La troisième tentative de l'adversaire est la question de l'autorité et du pouvoir. Qui ne désirerait pas avoir de l'autorité sur son prochain, sur son concitoyen, même de manière inconsciente? Et en fait, c'est bien ce que nous voyons dans notre monde. Sans cesse, nous voyons notre monde confronté à des abus d'autorité, à des dictateurs. Il n'est pas besoin d'en faire un inventaire. Ouvrez vos journaux, allumez la télévision, on ne voit que ça. Et c'est bien ce que dit l'adversaire au verset 6 et 7. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Voilà le discours de l'adversaire. Et toute la question est là. De qui tenons-nous notre autorité? De qui le Christ tient-il son autorité? Qu'allons-nous faire du pouvoir qui nous est confié? Et lorsqu'on examine les choses, on se rend compte que, au fil des siècles, l'Église s'est prise les pieds dans cette question, et en particulier à partir du IVe siècle, lorsque le christianisme a été reconnu comme religion d'État. Et c'était probablement la pire des choses qui pouvait lui arriver. Parce que quand l'État impose une religion, sa religion, il n'y a plus de possibilité de conscience et de liberté, de conscience et de foi. Et c'est justement ce que Jésus refuse. Quand l'adversaire lui propose de l'adorer en échange de la domination sur tous les peuples et les royaumes, et les églises, au fil des temps, se sont laissées prendre. L'Église, au départ, a refusé le pluralisme religieux. Et lorsqu'on y réfléchit, les exemples ne manquent pas. Dans tous les essais de réforme au cours des âges, on peut penser aux Vaudois du Piémont, au Qatar, à Jean Hus, et puis aux guerres de religion en France, à la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV et toutes les persécutions qui s'en suivirent. Et en Suisse aussi, il y a eu des problèmes. Il y a eu des guerres à Capel, ou encore, on peut penser à ce qui s'est passé à Zurich, quand les autorités réformées de la ville on noyait dans la limate des croyants anabaptistes qui refusaient de faire baptiser leurs enfants. Non, même dans l'Église, ces questions d'autorité ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas, malheureusement. Et oui, nous sommes nous-mêmes soumis aux mêmes tentations auquel Jésus a été soumis. Et malheureusement, nous ne savons pas bien souvent y résister. Nous négligeons la liberté que le Christ nous propose et qu'il a lui-même gagnée au prix de sa vie et de sa mort. Nous pensons normal d'imposer aux autres notre foi, notre loi et notre manière de vivre. Nous refusons aux autres la liberté que nous affirmons vivre en Christ. C'est parce que Jésus a su résister et passer les épreuves auxquelles il a été soumis que nous pouvons aujourd'hui vivre libres de la soumission à l'adversaire. En tant que fils de Dieu, Jésus possédait déjà l'autorité sur tous les royaumes de la terre. Il en est le Créateur et celui qui maintient toutes choses en place. Et le tentateur aussi possède cette puissance. Il ne propose pas quelque chose qu'il ne possède pas. Tout est vrai dans le contenu de son offre. Quelle est donc cette autorité? Il est question ici de deux autorités différentes. L'adversaire, lui, propose une dictature. Mais ce n'est pas en dictateur que Jésus veut régner. Il veut régner avec l'autorité reçue de son Père. Et c'est une autorité d'amour. Une autorité qui n'impose, qui ne s'impose pas. Une autorité qui accueille et qui réconforte. Cette autorité, c'est celle dont Jésus parle lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Elle lui a été donnée par Dieu, son Père, le Seigneur. Ce pouvoir est un pouvoir qui n'asservit pas. Au contraire, le pouvoir que Jésus a reçu est un pouvoir qui libère. Et quand il nous le transmet, c'est pour qu'à notre tour nous vivions et proclamions cette liberté, cette libération. Jésus a choisi de rester en accord et en communion avec son Père. Et il nous offre cette même possibilité d'être en communion et de choisir qui est notre Dieu et de le choisir, lui, Jésus-Christ. Il est resté ferme dans sa foi en Dieu, une foi en un Dieu unique, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui aime. Oui, cette possibilité nous est offerte à nous aussi. Même si nous sommes parfois, voire souvent, confrontés à la tentation, à l'épreuve, et si souvent prêts à y succomber, nous pouvons néanmoins demeurer fermes parce que le Christ a résisté à l'épreuve et nous offre et nous donne le pouvoir, la liberté, son esprit, afin que nous puissions choisir. Peu importe le domaine dans lequel nous sommes attaqués, nous avons l'exemple du Christ qui nous enseigne comment ne pas succomber à la tentation, en disant « Il est écrit », en nous référant à la Bible. Et il nous offre sa victoire, cette victoire qui est aussi notre victoire, sa liberté qui est notre liberté. Alors vivons en homme et en femme libre et aimant et passionné d'amour pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Ainsi, chacune, chacun pourra vivre en pleine liberté. Amen.
Je chante mes louanges à son nom.
Le Christ vivant nous invite maintenant à sa table. Il nous offre ce repas. Il nous veut participants à sa vie et en communion les uns avec les autres. Il nous offre un pain d'homme et de femme libre. Nous ne sommes pas dignes de paraître devant Dieu. Nous ne sommes pas dignes de recevoir ce pain. Pourtant, il nous a lavés par le sang de son Fils et nous sommes maintenant invités à nous approcher de lui et à accepter ce qu'il nous offre.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe.
Nous prions. Seigneur, tu nous connais. Tu nous sais incapables de vivre selon ce que tu nous demandes. Sur ce chemin que tu as tracé pour nous vers la liberté. Mais tu as vaincu l'adversaire et tu nous fais participants de ta victoire. Dans ce repas auquel tu nous invites, tu nous donnes ton pardon, ta présence et ta paix. Par l'action de ton Saint-Esprit, donne-nous maintenant communion avec le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. En communion les uns avec les autres, parce que tu fais de nous des membres de ton Église, qui est ton corps. Que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce vin la joie que tu veux pour nous. Par ce repas, nous voulons annoncer ton royaume, un royaume de liberté, jusqu'à ton retour. Amen. Seigneur, tu nous as accueillis à ta table. Tu nous as nourris. Tu as étanché notre soif. Nous te disons merci. Et nous voulons maintenant aller en proclamant que tu es vivant. Tu nous ouvres un chemin de liberté par la présence en nous de ton Esprit Saint. Alors nous pouvons maintenant aller avec la force que tu nous donnes. Amen.
Pendant le dernier chant, on va pouvoir aussi avoir un moment d'offrande. Pour rappel, c'est une offrande pendant l'été qui est partagée entre les deux paroisses, donc protestante et évangélique. Sentez-vous libre d'y participer, comme d'habitude.
Après ce message, après ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, est-ce qu'on va oser chanter maintenant ensemble « Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi » ? Il y a un risque de chanter ça ? Le risque de voir un Dieu comme un Dieu providence qui va nous sauver quoi qu'il arrive ? Il va aller faire n'importe quoi, il va nous garder. Non, je crois que si on chante ce chant ensemble ce matin, c'est par cette foi en cette liberté. Cette liberté qui nous responsabilise aussi. Et cette parole qui est lue dans le texte de Matthieu qu'on a étudié et que Michel nous a présenté, c'est une vraie promesse. Il veut nous porter, quoi qu'il arrive. Et dans nos moments de difficulté, il sera là, il est là, et nous pouvons lui faire confiance. Mon secours est en toi.
Je lève les yeux. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul es ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi.
Quelques annonces avant la bénédiction. Dimanche prochain, au CEPOM, culte avec Philippe Anchaud. Et grillade communautaire, mercredi 30, donc pas ce mercredi-là, mais mercredi d'après, dès 19h, juste sur le terrain à côté. Voilà, je crois que c'est tout.
Je vous invite à vous lever pour prier et recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Allons et proclamons son amour et la libération pour tous les humains. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous. Amen. Et bon dimanche.